Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 1er août 2025, il est 8h dans ce studio, même heure partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour. Le couvre-feu en vigueur dans la ville de Kayes depuis les dernières attaques a été prorogé mais réaménagé par les autorités régionales. Elle reste en vigueur jusqu'au 31 août de 22h à 6h du matin. Drame à Saint-Phil, trois personnes ont été électrocutées la nuit du mercredi au jeudi. Les habitants du quartier sont entre colère et émotion. Elles appellent les autorités à mettre fin aux installations anarchiques. Afro Basket Féminin 2025, les Aigles d'Am qualifiées pour les demi-finales après leur victoire sur le Mozambique. Elles croiseront en demi-finale les Sud-Soudanaises qu'elles avaient difficilement battues lors de la première journée. Ces titres vous seront développés par Draman Meiga. Ibrahim Sanogo assure la mise en onde. Encore une fois, bonjour. Le gouverneur de la région de Kayes a prorogé le couvre-feu en vigueur dans la ville depuis les attaques coordonnées perpétrées dans la région il y a plus d'un mois. Plusieurs autres régions ont instauré la mesure pour faire face à l'insécurité. A-t-elle permis de rassurer les habitants de ces régions? La réponse avec Halima Yatara.
À Kayes, le couvre-feu a été prorogé, mais les heures ont légèrement été réaménagées. Il est désormais en vigueur de 0h à 6h du matin. Les habitants de la cité des Rails saluent ce réaménagement.
Je trouve normal la prolongation vu le contexte sécuritaire et vu ce que la ville a connu très récemment, surtout la région. Surtout les changements d'horreur, des horaires à 5h du matin, ça permettra de lier les deux, la sécurité, mais aussi le développement économique et la croissance.
Moi, je pense qu'à Kayes, ici, la prolongation du couvre-feu, vraiment pour moi, c'est une très bonne chose.
Comme à Kayes, le couvre-feu est en vigueur à Sikasso et Ségou aussi depuis un mois, de 22h à 6h du matin. Les habitants de ces régions se disent quelque peu rassurés par l'instauration de cette mesure, même si certains déplorent un ralentissement de l'activité économique.
Ici à Sikasso, le couvre-feu a dissuadé les malfaiteurs. Nous souhaitons que les patrouilles se poursuivent. Voilà ce que je pense.
Ici à Ségou, moi je tire un bilan positif. Même les voleurs se sont calmés car les patrouilles les dissuadent.
Il faut rappeler que ces mesures de couvre-feu visent à lutter contre l'insécurité en permettant aux forces de défense et de sécurité de traquer les présumés terroristes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Trois morts, c'est le bilan d'un drame qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs de 22h dans la zone Saint-Phil. Selon les témoignages recueillis sur place, un câble de haute tension s'est détaché et s'est effondré sur la route détrempée par la pluie. Les victimes qui étaient alors de passage ont été électrocutées et n'ont pas pu survivre à la charge électrique. Dans ce quartier qui a déjà connu un tel incident, l'émotion est encore vive et les habitants redoutent d'autres drame. Notre reporter Issa Oumar Togola s'est rendu sur place, suivant son reportage.
Le drame s'est produit devant la société malienne de Pile. Ici, des habitants sont encore sous le choc suite au décès des trois personnes électrocutées.
C'est un câble de haute tension qui s'est détaché et est tombé dans l'eau. Un mototaximan qui était de passage a été électrocuté avec sa cliente. Mon ami voulait également passer avec sa moto, croyant qu'il n'allait pas être touché. Mais il a été touché par le câble qu'il a électrocuté et a été entièrement consumé par le feu. La fille qui était derrière lui n'a pas été touchée. Ils sont restés sur place pendant 40 minutes. Personne ne pouvait les toucher. Il faisait noir également.
L'an dernier, un incident similaire s'est produit dans ce quartier sans faire de victimes. Et suite à ce dernier drame, l'Association des consommateurs du Mali s'interroge sur le respect des normes des installations et exige des enquêtes. Abdel Wahab Diakité, président de l'ASCOMA.
Les moins de tension encore ne sont pas sécurisés. C'est inadmissible. Est-ce que réellement ce sont des professionnels qui l'ont fait? Est-ce que réellement il y avait un service de contrôle? Nous nous condamnons avec la dernière rigueur ces comportements et nous voudrons réellement que des enquêtes soient ouvertes, que les responsables soient sanctionnés et que les résultats de l'enquête soient publiés.
Aujourd'hui, les habitants de la zone Saint-Phil vivent la peur au ventre. Ils dénoncent des branchements anarchiques et en mauvais état et interpellent les autorités à offrir plus de sécurité aux populations et aux passagers. Nous vous signalons que nos tentatives pour faire réagir l'énergie du Mali sont restées vaines.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
D'après une étude menée sur une période de 4 ans à l'hôpital Gabriel Touré, 49 des 4965 enfants hospitalisés souffraient d'insuffisance rénale due au paludisme. Bien que des statistiques nationales fiables ne soient pas encore disponibles, cette situation soulève des inquiétudes concernant la propagation de cette maladie touchant de plus en plus les enfants. Plus de détails dans ce reportage signé Abibatoulaye Baldé.
L'insuffisance rénale est une pathologie silencieuse. Pourtant, cette maladie impose de graves souffrances à de nombreuses familles au Mali. C'est le cas de cette mère dont l'enfant en souffre.
Il se plaint de douleur chaque fois que je le tiens. Il ne peut pas pisser quand il a envie. Nous l'avons amené à l'hôpital afin qu'il soit mis sous traitement. Certains médicaments sont abordables et d'autres non. La dialyse coûte cher car en 3 séances, nous avons dépensé 150 000 francs. S'ajoutent les 2 autres séances qui font 250
000 francs. Malgré le désarroi de ses enfants et de leurs parents, l'insuffisance rénale n'a toujours pas l'attention qu'elle mérite. Ibrahim Dambélé, président de l'association des dialysés à l'hôpital du Pongé, regrette l'insuffisance des efforts au regard de l'ampleur de la maladie.
L'association n'a pas de moyens pour aider les malades, ni collectivement, ni individuellement. Mais nous nous battons quand même pour qu'ils puissent accès à la dialyse et pour que vraiment ils puissent aussi avoir cet accès-là, mais de façon gratuite.
Docteur Bori Traoré, pédiatre à l'hôpital Gabriel Touré, tire la sonnette d'alarme par rapport à la hausse de cette maladie chez les plus jeunes. Le spécialiste conseille aux parents de consulter les médecins en cas de paludisme grave chez les enfants.
Le nombre d'enfants atteints d'insuffisance rénale, à notre niveau, ça connaît une hausse. Les enfants qui ont plus de 6 ans, qui font les paludismes graves, beaucoup font l'insuffisance rénale et on dit aux parents, chaque fois que vous constatez votre enfant a les visages bouffis au réveil le matin ou encore a des œdèmes au niveau des membres inférieurs, il faut consulter le plus rapidement possible.
Selon professeur Samake Mangara, néphrologue à l'hôpital Fusendao de Kai, les causes de cette maladie sont nombreuses. Il donne tout de même des mesures pour prévenir contre l'insuffisance rénale.
Les causes infectieuses qui sont très fréquentes, on a les causes toxiques, on a les causes urologiques, avec les obstructions, les lithias, les malformations. Après, on a les diabètes qui commencent aussi progressivement à venir. Et en matière de prévention également, il faut adopter une bonne hygiène de vie, boire suffisamment d'eau si on est déshydraté. Ou bien en période de chaleur, avec les hypertendus, ou bien en cas de néphropathie initiale, donc vraiment de faire un suivi régulier.
Afin de lutter contre l'insuffisance rénale chez les enfants, les experts recommandent de multiplier les efforts de sensibilisation et de dépistage.
Un mot sport. Afro-basket féminin 2025, les Aigles d'Âmes ont décroché hier leur ticket aux dépens de l'équipe du Mozambique 86-68. Elles retrouveront donc les Sud-Soudanaises qu'elles avaient battues difficilement lors de la première journée. La demi-finale est prévue pour ce samedi 2 août au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. À la fin du match, Sekou Gadjigo a joint Boubel Konaté, secrétaire général de la Fédération malienne de basketball. Il s'est dit confiant et assure que l'équipe reste focus sur son objectif qui est de remporter le tournoi.
Le Mali Soigneur d'Âmes vient de remporter le match contre le Mozambique de façon héroïque et de sans bavure. C'est une génération dorée, comme je l'ai toujours dit. C'est des jeunes filles qui sont habituées à la haute compétition. Elles ont intégré sur l'équipe senior très tôt. C'est l'école malienne de basket aujourd'hui qui a l'honneur. Toutes ces jeunes filles ont été formées au Mali, sauf Diana Balaera. Le Soudan du Sud, c'est l'équipe surprise du championnat. On les a battus difficilement avec 2 points. On s'est retrouvé à 5 minutes de la fin du match en posant une défense pour les contrarier. Donc c'est une équipe qu'on connaît. Et comme on a promis, comme les filles l'ont promis, cette coupe retournera au Mali, Inch'Allah.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après le spot et le magazine, la version en bamanakan de ce bulletin d'information avec Aïssata Diarra. Excellente journée de vendredi.
Studio Tamani, toute la voix du Mali. Audit.
auditeurs et auditrices de Studio Tamani, à partir du lundi 4 août 2025, le programme de Studio Tamani passera à 1 heure de diffusion, de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez un bulletin d'information en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un grand dialogue hebdomadaire, l'émission humanitaire Fabou Diren tous les mardis et mercredis, le Club Tamani tous les vendredis, Studio Tamani, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, toutes les voix du Mali.
Installé de manière permanente au Mali depuis 1991, le Comité international de la Croix-Rouge travaille en faveur de la protection de la vie et de la dignité des victimes des conflits armés au Mali. Dans les zones touchées, l'organisation soutient le secteur de la santé en réhabilitant des infrastructures médicales et en fournissant des médicaments aux hôpitaux et aux centres de santé de référence. Le CICR intervient également dans le domaine agricole. Il redonne de l'espoir aux ménages vulnérables à travers la distribution de semences et des engrais. Dans ce magazine réalisé en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, des bénéficiaires témoignent de l'impact de ces actions humanitaires. C'est une réalisation de Imirana Kirumeiga.
Dans sa mission de protection et d'assistance aux victimes de conflits, le Comité international de la Croix-Rouge promet les règles et les principes humanitaires qui doivent être respectés pendant la guerre par tous les porteurs d'armes. Objectif : minimiser les effets dévastateurs du conflit sur les civils, les malades, les blessés et les biens essentiels dont les infrastructures sanitaires. Fabien Kaufmann, coordinateur protection du Comité international de la Croix-Rouge.
Lorsqu'une situation de conflit armé ou de violence armée survient, les soins de santé sont encore plus sollicités qu'en temps normal. Mais c'est là aussi qu'ils peuvent être touchés directement ou indirectement par les effets de la violence armée. Alors si en conséquence la fourniture des soins devait être interrompue, alors même des maladies bénignes qui seraient facilement traitables en temps normal pourrait ne plus être traité.
Sans cette protection, le contexte pourrait être critique, voire dramatique pour des populations dans les zones de conflit. Au nord du pays, dans la région de Menika, selon ce témoignage de cet habitant, l'intervention du CICR est essentielle pour répondre aux besoins sanitaires locaux.
On part de chez nous jusqu'à 60 km pour aller se soigner au niveau des SESCOM qui sont là-bas, qui sont proches. Et aussi, il y a des SESCOM qui sont à 15 km de chez nous. Donc vraiment, on a pris la fuite parce que avec ces jarres électriques, il ne faut pas prendre des risques souvent, mais on est obligé de les faire pour au moins aider les femmes enceintes, les enfants, ceux qui tombent malades, qui ont la malaria. Donc, ce n'est pas été facile vraiment.
Au centre du pays, les populations locales reconnaissent également les efforts du CICR. Un habitant de la région de Bandiagara en témoigne.
Quand le centre de santé a été incendié, les médecins se sont enfouis, on ne trouvait plus de médicaments. La route reliant Bandiagara à Bankas était impraticable. En cas de besoin de médicaments, nous ne pouvons nous rendre à Bandiagara. Nous étions débordés par les malades que nous ne pouvons transporter à Bandiagara, encore moins à Bankas. Une balle des hommes armés avait atteint mon père qui a succombé à sa blessure. Grâce à l'aide des bonnes volontés, nous avons pu stabiliser la situation du centre de santé. Sinon, nous étions dans des difficultés insupportables.
Depuis 4 ans environ, le CICR fournit des médicaments au centre de santé communautaire de Inadiafatan dans le cercle de Gourmararous, région de Tombouctou. L'organisation prend également en charge le personnel de santé, a indiqué Dr Adama Fomba, directeur technique du centre de santé communautaire de Inadiafatan.
Face à l'insécurité, seul le domaine de la santé qui fonctionne là-bas. Le CESCOM est appuyé par une ONG, le Comité international de la Croix-Rouge CICR, 4 ans environ, ils sont là-bas. Ils font des dotations de médicaments. Ils ont des cibles comme les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les blessés de guerre, les violences basées sur le genre. Bon, la prise en charge de tous ces activités-là sont gratuites.
Dr Fomba ajoute qu'en l'absence de ce soutien, le centre de santé communautaire de Inadiafatan n'existerait tout simplement plus aujourd'hui. Il explique pourquoi.
CICR nous appuie dans le référencement de nos malades. Si on voit une femme qui est sur le point d'accoucher, si on nous envoie à 300 km sans ambulance, vous voyez ce que ça fait. Elle nous emprunte des véhicules et aussi un agent de santé est dans le véhicule. La prise en charge du malade est gratuite. Tous les agents de santé qui sont au sein du CESCOM sont pris en charge par CICR.
À Gao, le Comité international de la Croix-Rouge dote depuis 2012 l'hôpital régional de médicaments, mais aussi en recrutant du personnel de santé. Dr Boubacar Oumar Cissé, chef du service de urgence de l'hôpital régional de Gao, souligne l'impact crucial de cette assistance sur le fonctionnement de l'établissement.
Notre collaboration a débuté
débuté depuis 2012. Là, le CICR appuie l'hôpital sur le plan intrant, c'est-à-dire les médicaments, sur le plan financier, dans le recrutement même des agents, et sur le plan prise en charge, et aussi sur le plan réaménagement des locaux, assainissement, hygiène.
En raison de tout ce qui précède, Fabien Kaufmann, coordinateur protection au CICR, alerte cependant sur les conséquences des restrictions d'accès aux soins. Selon lui, ces limitations compromettent la prise en charge médicale des populations les plus vulnérables.
Cette limitation de l'accès aux soins peut donc avoir sur la population civile des effets qui sont à la fois graves mais aussi évitables. C'est pour ça qu'en vertu du droit humanitaire, ceux qui prennent part au conflit, à la violence armée, sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour protéger la mission médicale.
Face aux conflits et aux obstacles à l'accès aux soins de santé, le Comité international de la Croix-Rouge redouble d'efforts pour prévenir et atténuer les violences, tout en assurant la protection des civils et du personnel soignant.